Géopolitique, Richard Labévière.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Géopolitique, les cartes du monde. Une édition aujourd'hui inhabituelle et exceptionnelle. Inhabituelle parce que Géopolitique a coutume de vous proposer des éclairages tant sur des régions en crise que sur des thématiques de crise. La géopolitique des trains qui arrivent à l'heure ne présente guère d'intérêt. C'est bien évidemment une géopolitique des conflits, des confrontations, des contradictions, sinon des malheurs qui s'imposent à nous le plus souvent. Par conséquent, nous voulions pour une fois prendre le contre-pied de nos exigences en parlant non plus des crises, mais justement des situations de paix, de stabilité, sinon de bonheur, en examinant l'idée même du bonheur dans ses composantes internationales actuelles, mais aussi à travers ses filiations historiques et ses généalogies, et de voir si on pouvait parler d'une géopolitique du bonheur, justement. Édition exceptionnelle, puisque c'est avec un grand spécialiste, un grand historien du bonheur, que nous vous proposons cette pause salutaire dans notre succession des géopolitiques du malheur. Jean Salem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à la Sorbonne, où vous animez notamment un séminaire d'histoire du matérialisme. Vos principaux ouvrages disponibles chez Vrin, Hachette, Quimet ou aux éditions du Seuil portent essentiellement sur la philosophie des atomes et sur la pensée du plaisir. On pense évidemment à Démocrite, Épicure et Lucrèce notamment. Vous publiez aujourd'hui un livre important et très agréable à lire, très salutaire, très stimulant, qui s'intitule « Le bonheur ou l'art d'être heureux par gros temps » et qui sort donc actuellement aux éditions Bordas. Première question, Jean Salem, qui s'adresse à l'historien des idées que vous êtes. Est-ce que le bonheur est une idée récente ou à contrario très ancienne, et comment peut-on justement faire l'histoire de cette idée, cette notion du bonheur ?
D'évidence, je vous répondrai que c'est une notion ancienne, ancien temps. De fait, pour illustrer cela, plutôt que des pensées trop générales, et plutôt qu'un ton de professeur de bonheur, hein, je veux surtout pas faire partie de cette catégorie, à l'ancien empire en Égypte, donc vers 3000 ans avant Jésus-Christ, seul le pharaon et éventuellement ses très très proches parents penser, si je puis dire, à la vie éternelle, à la survie individuelle outre-tombe. Il y a une démocratisation au Nouvel Empire, si on peut dire, c'est-à-dire que vers l'an moins 1200, chacun, même s'il n'a pas les moyens de se faire momifier, peut faire en sorte qu'on momifie un ibis ou je ne sais quel singe en lieu et place de son corps humain. Et ça assurera une destinée éternelle à son âme, ou ce que les Égyptiens appellent le ba, qui se promènera entre les enfers et la tombe quotidiennement. Et puis deuxièmement, Aristote, c'est beaucoup, beaucoup plus près de nous. Hein. Les pyramides sont aussi antiques par rapport à l'époque de Platon et d'Aristote que Platon et Aristote par rapport à nous, à 2500 ans d'écart à chaque fois. Aristote, dans son Éthique à Nicomaque, dit entre autres lieux désormais communs, que tout le monde agit en vue du bonheur.
Oui, mais Jean Salem, justement, chez Aristote, l'idée du bonheur est déjà une idée très politique qui a pour synonyme le souverain bien, si je puis dire. Est-ce que d'entrée de jeu, du temps d'Aristote et de l'éthique à Nicomaque, on associe déjà le bonheur à la stabilité politique ?
Chez Aristote, dans une période de relative santé politique, dans une période où on peut théoriser à propos d'une cité qui se porte relativement bien, oui, bien sûr. On dit souvent que la philia, l'amitié aristotélicienne, c'est à la fois, si on la spécifie, si on la divise en espèces, un sentiment qui s'adresse à l'épouse, aux enfants, aux concitoyens, à la cité-État, à la patrie tout entière. On ne sait pas bien traduire, on traduit parfois par amitié, mais c'est beaucoup plus large, bien évidemment. C'est aussi la concorde, c'est aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui l'esprit civique, ou pourquoi pas, avec le mot tarte à la crème, l'esprit citoyen. Je vous dirais pas que c'est ce qui m'intéresse plus, mais en tout cas c'est ce sur quoi j'ai le plus travaillé. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur... parmi les trois grands philosophes qui ont dit que tout est fait d'atomes, chez les Grecs et les Romains, Démocrite, Épicure,
Lucrèce.
Et Lucrèce, j'ai travaillé notamment sur l'épicurisme dans ma première thèse, et Épicure présente cet intérêt qu'il vit dans un temps de catastrophe, puissance 3, puisque Alexandre a conquis à peu près tout le monde connu, Chine exceptée, Et la cité grecque n'est plus, comme disent certains historiens, qu'une polis, une cité de théâtre aux mains des démagogues, qui représente notamment à Athènes tel ou tel général d'Alexandre voulant se tailler un bout d'empire aussi grand que la Perse ou l'Égypte parmi les débris, en ramassant un de ces gros débris de l'empire mondial mais éphémère qu'avait constitué Alexandre. Donc, moi j'ai remarqué que cette philosophie qui s'occupe de savoir comment on peut viser un bonheur terrestre, pas question de survie individuelle dans l'au-delà, partant de catastrophes, partant d'inquiétudes, d'une immense actualité. Je ne crois beaucoup à l'histoire, je ne dis pas qu'elle est transposable directement aujourd'hui, comme vademécum portatif pour être heureux, en 2006, mais... elle nous est d'une certaine façon contemporaine quand même.
Jean Salem, la recherche du bonheur compte parmi les droits inaliénables que la Déclaration d'indépendance américaine de 1776, par exemple, place au même rang que le droit à la vie et le droit à la liberté. Jean Salem, comment s'est progressivement imposée cette conception juridique du bonheur ?
Je crois qu'on pourrait dire, vu d'avion, sans avoir prétendu me livrer à une histoire encyclopédique du bonheur, c'est pas l'objet essentiel, c'est un des objets du livre d'y faire des allusions, simplement. Je crois qu'on peut dire qu'il y a eu cette tendance, depuis la nuit des temps en Occident, à démocratiser toujours plus la prétention au bonheur. Et par conséquent, après cette anecdote relative à l'ancienne Égypte que je vous infligeais tout à l'heure, on peut dire que de plus en plus, on sent venir avec le christianisme, entre autres, mais auparavant avec l'épicurisme et le stoïcisme, dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, cette idée que tout le monde, fût-il esclave, ce qui, pour l'époque de la grande morgue grecque, pour l'époque classique de la Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, aurait paru ridicule, tout le monde peut prétendre au bonheur. Si on fait le tour chez Aristote, en prenant tous les passages de la politique, et de l'éthique à Nicomaque, ni les enfants sont trop jeunes pour ça, ils ne sont pas encore des êtres rationnels, ni les agriculteurs, les commerçants qui peuvent être des hommes libres mais qui sont occupés toute la journée à un travail manuel et souvent abrutissant, ni les femmes bien sûr, puisqu'elles n'ont pas l'autonomie politique, elles ne sont pas dans la condition de l'homme adespotes, de l'homme libre au plein sens du terme, ni les esclaves, bien sûr, ni certains peuples étrangers qui sont vraiment trop loin de la rationalité grecque ne peuvent prétendre au bonheur. Et c'est avec l'épicurisme et le stoïcisme qu'apparaissent des philosophies mondiales, des philosophies qui s'adressent, comme disent certains commentateurs britanniques, au plain man, au bonhomme du coin, à l'homme moyen. Et il va de soi que le XVIIIe siècle, dans ses déclarations fameuses, aussi la déclaration bien sûr des droits de l'homme de 89, déclarée impie par le pape de l'époque, explique que tout individu, où qu'il soit, même s'il est une colonie en train de planter comme esclave dans les plantations des planteurs, a droit au bonheur.
Alors justement, pour faire un saut de la Grèce ancienne à l'âge classique auquel vous faisiez allusion, Jean Salem, le bonheur pour Montaigne, ou plutôt la vie, consiste, on s'en souvient, à apprendre à mourir. Plus tard, les encyclopédistes, dont Diderot, expliqueront très clairement leur opposition au suicide, par exemple. Alors d'une manière plus générale, le bonheur moderne de l'âge classique, entre guillemets, découle-t-il des Lumières à travers cette notion d'un droit au bonheur, une espèce de stoïcisme résolument optimiste qui est fondé, qui parie sur le progrès matériel et moral?
Oui, je dirais que dans mon petit panorama très osé que je viens de faire à l'instant, j'oubliais de signaler que, évidemment, l'idéologie du XVIIIe siècle, celle qu'on connaît, celle des Lumières françaises en tout cas, est préparée par les théories dites du droit naturel. Comme chez Aristote, finalement, un personnage comme Bossuet peut écrire que la plupart des hommes naissent sujets pour être des sujets, et quelques hommes sont nés pour commander. Il y en a qui sont faits pour être esclaves, dit Aristote, il y en a qui sont faits pour être des hommes libres. Et à partir du moment où avec Hobbes, Locke, d'autres, Pufendorf, Grotius, donc 17e siècle, on commence à dire que il faut imaginer un état de nature qui peut-être n'a jamais existé, mais un état, disons, dans lequel les hommes seraient indépendants de toute institution et où chacun compterait pour un. Mais le grand problème dans cet état, c'est que il n'y a aucune loi qui garantirait ni les propriétés ni même la survie d'un chacun. Alors à partir du moment où on explique que chacun compte pour un et que le pouvoir souverain, il y a des gouttes de ce pouvoir, si vous voulez, des parcelles dans chacun d'entre nous en quantité égale avant qu'on ne passe des contrats, même si ça n'a pas existé dans l'histoire, c'est comme ça qu'il faut penser la société. Qu'est-ce que choisiraient des hommes qui sont, comptent tous pour un s'ils entraient dans une société, comme loi, comme contrat social? À partir de ce moment-là, on a les prodromes, les signes avant-coureurs des idées qu'on entend beaucoup au XVIIIe siècle. Et alors ces idées au XVIIIe siècle, elles sont mêlées, on dirait peut-être aujourd'hui un peu vite, d'un effroyable optimisme, mais enfin d'un optimisme parfois un peu délirant, puisque chez Condorcet, qui est adorablement sympathique, on lit que grâce au progrès des Lumières, de la science, l'homme deviendra plus moral, ça c'est pas exclu, peut-être même qu'il prolongera sa vie indéfiniment. Condorcet ne l'écrit pas, mais il semble presque le penser, la médecine nous rendra immortels. Et puis, il y aura tellement de vertus et de mathématiques sociales, hein, il croit beaucoup à ça, une sorte de statistique qui produirait le bonheur, on saurait où sont les besoins et comment les résoudre immédiatement. Il y croit tellement que ça ressemble à ce qu'on appelle les utopies, c'est aujourd'hui un gros mot, moi j'aime bien les utopies, mais évidemment elles sont rarement réalisables.
Géopolitique, les cartes du monde sur RFI.
Géopolitique suite avec aujourd'hui Jean Salem, professeur de philosophie à la Sorbonne, pour son livre Le bonheur ou l'art d'être heureux par Groton, qui sort actuellement aux éditions Bordas. Jean Salem, le projet de perpétuel d'Emmanuel Kant, dont on voit bien qu'il anticipe les ambitions de la Société des Nations, de l'Organisation des Nations Unies, est-il un plan de bonheur universel si tant est que l'on puisse réduire le bonheur à la paix civile et politique et collective?
Dans ce livre où je prends mon bien, je tiens à le dire presque autant dans la littérature, Villiers de l'Isle-Adam, Tolstoï, Tchekhov, Maupassant, que chez les auteurs canoniques de philosophie, j'essaie de rassembler, si vous voulez, trois idées, trois thèmes qui me sont plus que chers. Le bonheur défini comme bien-être, vivre c'est bien, dit une tradition matérialiste qui va de Lucrèce à Feuerbach, philosophe allemand du 19e siècle, et à beaucoup d'autres. Le simple sentiment d'exister, même comme dirait un certain Rousseau, de lézarder au soleil, de s'amuser avec sa famille ou ses amis, les enfants notamment. Donc le sentiment du bien-être. Deuxièmement, le bonheur comme ce que les épicuriens appellent l'ataraxie. Alors ce n'est pas forcément un désengagement complet, mais c'est l'absence de troubles. Chez Épicure, c'est un désengagement complet à l'égard de la vie politique. C'est, disons, une certaine sérénité. Pour prendre des images toutes simples, ça commence par la faculté de pouvoir se regarder dans la glace, à la différence de cette génération très presse à laquelle j'appartiens, qui a renié, foulé aux pieds ses idéaux, et qui ne craint pas le ridicule. Et puis troisièmement, le bonheur dans la lutte. Le bonheur dans la lutte, dont on parle très peu depuis 25 ans. Quand on parle de bonheur, c'est toujours du bonheur privé, individuel, étroitement familial. Alors, quand ce projet de paix perpétuelle, contrairement à celui de l'abbé de Saint-Pierre, n'a rien de lénifiant ou d'euphorique, il explique tout simplement que les États nous donne une extraordinaire image de ce que serait pu être l'état de nature, c'est-à-dire que la situation internationale, le droit des gens, nous montre en gros une absence totale de droit, chacun fait un peu ce qu'il veut, comme l'administration américaine dans l'après-perestroïka, par exemple. Et Kant explique de façon extraordinairement lucide qu'il faut prévoir, oui, une sorte de société des nations, de rassemblement, d'organisation intergouvernementale qui discute de l'état du monde. Mais ce qui est hyper moderne, c'est qu'il explique que ça ne peut reposer, bien sûr, que sur une sorte d'équilibre de la terreur, cette paix qui pourrait suivre la constitution d'une telle société des nations. Alors, est-ce que la paix est une définition du bonheur? Je finis enfin. Au point de vue individuel, j'en suis assez partisan, mais en considérant que la paix avec soi-même passe par la lutte pour la justice, et pas par l'indifférence à l'égard de ce qui se passe sous nos yeux. Et deuxièmement, au point de vue international, je ne suis pas un pronostiqueur professionnel, mais je vous avoue que je disais dès les années 1990 qu'on regretterait bientôt le bon temps de la guerre froide. Alors je ne dis pas que c'est une situation idéale, mais ma famille m'ayant montré les vertus du militantisme et du militantisme communiste. J'en ai surtout pas à rougir. Mon père signe ses livres sous le nom d'Henri Allègue.
Henri Allègue, auteur de la question dénonçant la pratique de la torture en Algérie.
Oui, et franchissant le rideau de fer pour trouver la liberté dans un sens qu'on signale peu souvent. Hein. Il s'est réfugié à Prague et j'ai fait une partie de ma scolarité à Moscou. Du fait qu'il était impossible d'être un journaliste libre et favorable à l'indépendance de l'Algérie, et ayant subi la torture, et ayant résisté courageusement dans la France démocratique, qui commettait des massacres démocratiques dans cette époque dont on reparle un peu 40 ans après.
Alors justement, Jean Salem, à l'issue de votre examen de cette idée du bonheur, tant à travers ses approches métaphysiques, psychologiques, anthropologiques, sociologiques, vous vous appelez à la résistance, on retrouve cette filiation historique de lutte de votre famille, de vous-même, de votre engagement, et vous appelez à la résistance à ce que vous dénoncez comme la lunaparchisation du monde. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
D'abord, je mets tellement de notes que pour une fois où je n'en ai pas mis, je dirais que je dois ce mot à Philippe Muret. Vu ses tendances politiques, ça me rappelle que mon frère me dit souvent que si je n'étais pas de gauche, je serais de droite. Enfin, je partage avec un intellectuel comme Philippe Muret cette désolation. Hein, ça peut transcender les clivages politiques. Cette désolation devant le décervelage, la décérébration dont tout le monde parle, l'infantilisation générale, la transformation d'une partie des couches moyennes, d'une partie du monde, celle qu'il domine encore, le monde, en bande de joyeuderie devant s'ébahir devant des divertissements du type Disneyland ou quelque chose dans le genre. Tout ça, évidemment, dans un monde où tout repère, toute colonne vertébrale, tout squelette, toute lutte collective semble s'éloigner. Mais je suis quand même assez confiant. Je cite une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Le Bonheur, d'ailleurs, et qui a pour conséquence philosophique, si je puis dire, que le bonheur pourrait se définir, en tout cas dans cette nouvelle, par une certaine simplicité dans le mode de vie, et dans l'âme, dans l'esprit, le sentiment de la plénitude, on a tout ce qu'il faut, et puis surtout une constance, suivre une ligne. Alors, je pense que c'est ça qui manque cruellement à ma génération. Je vois bien que celle qui suit, celle des étudiants, celle qui suit 30 ans derrière, n'est pas peu déboussolée, mais elle m'inspire beaucoup plus confiance.
Merci Jean Salem. On pourrait tout aussi bien évoquer aussi le fait de cultiver les passions joyeuses, comme disait Spinoza, en ayant confiance sur la connaissance et le savoir. Je vous remercie pour cette exploration du bonheur qui renvoie au très beau livre que vous publiez actuellement, Le Bonheur ou l'Art d'être Heureux, par Groton, aux éditions Bordas, un livre pour cultiver ce que nous recommande, ce dont je parle à Spinoza, les passions joyeuses. Merci à vous. Merci à Olga Samsonov pour la réalisation et à Laurent Philippot pour la mise en onde. À la semaine prochaine et dans une poignée de secondes, un nouveau journal sur la radio du monde.
Pour nous écrire par email, geopolitique@rfi.fr.